Aujourd'hui à Rencontre, c'est l'anniversaire de naissance d'un bienheureux extraordinaire à mon avis, dont je vous ai déjà parlé et j'y reviens parce que je l'aime beaucoup. C'est Jacques Désiré Laval, ou Jacques Laval simplement, qui est né en 1864, un 9 septembre, et qui a été béatifié il y a moins de 20 ans, le 29 avril 1979. C'était un médecin. Un médecin de Normandie, d'où une grande partie des Québécois viennent, sont arrivés il y a 350 ans. Et ce médecin qui a donc vécu là, c'est-à-dire il est mort le 9 septembre, pardon, il n'est pas né le 9 septembre, il est mort le 9 septembre 1864. Je m'excuse, 1864, je m'excuse. Et il a vécu donc tout à fait au 19e siècle. Il est né dans une famille de paysans, dans l'Eure, le 18 septembre 1803. Il n'est pas mort, très vieux comme vous voyez, 61 ans presque. Et c'était un garçon timide qui en impose à son... qui essaie d'en imposer à son père un petit peu, mais il se fait rabrouer facilement, parce que son père est sec et autoritaire, hein, c'est un paysan aisé. De toute façon, le petit Jacques Laval étudie le droit, mais surtout la médecine, puis sa mère est bonne, secourable aux malheureux, et ça le marque, ça. Mais il la perd, hélas, et en 1812, il a 9 ans, son père, qui est resté veuf avec 42 ans, avec 5 enfants en bas âge, imaginez, se remarie l'année suivante avec une jeune fille de 21 ans. Ça perturbe beaucoup sa sensibilité d'enfant de 10 ans. C'est un être émotif, il devient plus secret, plus silencieux. Et heureusement, comme M. Laval veut qu'il soit instruit, bien, il le confie à son frère qui est curé et qui tient une petite école dans un presbytère. Ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, au début du 19e siècle. Et le petit Jacques, il reste 3 ans sans beaucoup y apprendre. Et puis, à 17 ans, il entre en 5e. C'est pas très avancé, ça, au petit séminaire, mais il s'y ennuie. Mais il fait des études rapides et il l'envoie au Collège Stanislas à Paris. Cette fois, l'adolescent s'intéresse aux cours. On en a un Collège Stanislas à Montréal. C'est une succursale de celui de Paris, à Outremont. Et il se montre jamais un élève brillant, mais quand même, à 22 ans, il est reçu au baccalauréat. Alors, on pense qu'il va s'orienter vers le sacerdoce, mais finalement, il devient médecin. Assez rapidement. C'est en 1830, à moins de 27 ans, qu'il soutient une thèse sur le rhumatisme articulaire, puis il obtient son doctorat. Alors, un mois plus tard, le docteur Laval s'installe, toujours dans l'Eure, E-U-R-E, n'est-ce pas, cette région, à Saint-André, et puis... Il n'a plus l'air timide maintenant, là. Il a pris de l'assurance. Il est naturel. Il affiche même un certain luxe. Il a des chevaux fringants. Il fait de l'argent. Il aime la danse. Dans les réunions mondaines, il se monte bout en train. C'est un gars sympathique. Et il a bien oublié, semble-t-il, sa ferveur d'adolescent. Hein. Il manque souvent même la messe. Une de ses sœurs s'en étonne et il avoue bien candidement, bien simplement, parce que c'est un homme honnête, un jeune médecin honnête, il dit « Je résiste à Dieu ». Et en 1831, bon, c'est l'année après qu'il est devenu médecin, il songe même à se marier, puis il va à une noce, il cherche à s'étourdir, il boit du bon vin, il rencontre une jeune parente qui lui a plu, elle s'appelle Marguerite. Et puis, elle lui plaît. En même temps, il se révèle excellent médecin. Il est généreux envers les pauvres. Souvent, il les soigne gratuitement. Il va même jusqu'à leur fournir du pain, du pot-au-feu. Hein. C'est un médecin très généreux. Un peu folichon, un peu léger, mais généreux. Mais le succès que connaît ce jeune docteur Laval provoque la jalousie de l'autre médecin, qui perd un peu sa clientèle, qui est tout simplement un médecin fonctionnaire, et qui est maire, en plus de ça, de Saint-André, où tout ça se déroule dans l'heure. Alors, ce médecin officier, si on peut dire, ce médecin fonctionnaire, cherche à chasser Jacques Laval, le docteur Jacques Laval, en s'appuyant sur le pharmacien. Alors, le docteur Laval réplique en amenant à Saint-André un autre pharmacien. Et ça, ça crée bien des rivalités, des disputes et même des calomnies. Alors finalement, Jacques Laval, devant les calomnies, devant la bêtise, préfère partir et quitte cette région. Il est dégoûté, il s'en va à Ivry-la-Bataille, où il y aura moins de batailles, probablement. Et là, il fréquente monsieur et madame Simon. C'est un couple de chrétiens éclairés, surtout madame Simon. Puis, il a vite compris le drame spirituel du docteur Laval, ce couple catholique. Elle, madame Simon, elle remarque en particulier son recueillement lorsqu'il se rend à l'église. Et puis, il commence à s'informer sur la religion qu'il connaît moins qu'on pourrait croire. Et comme les Simons lui font grand éloge du curé du village voisin qui s'appelle l'abbé Letard, il va le voir. Et c'est un prêtre merveilleux. Si bien que 5 ou 6 mois après son arrivée à Ivry-la-Bataille, Jacques Laval se convertit. Est-ce qu'il songe déjà au sacerdoce? Pas encore, non, non. Parce que de toute façon, en 1835, au moment où ces événements-là arrivent, il a 32 ans, il désire acheter une maison. Mais après une chute de cheval, parce qu'il y avait un beau cheval blanc en particulier, et ça attire sur lui bien des moqueries, il est tombé en bas de son cheval. Hein. Les gens sont comme ça dans ces milieux-là. Et il n'hésite plus à s'adonner à une piété vraiment fervente. Là. Il décide, il commence à décider. Vous allez voir jusqu'où il va aller, c'est fantastique. Il regrette profondément de ne pas avoir servi Dieu avec fidélité depuis sa première communion. Alors à présent, on le voit passer de longs moments à l'église paroissiale. Et le dimanche, ce qui est moins répandu à cette époque qu'aujourd'hui, il communie. Puis il communie avec ferveur. Et finalement, cette Marguerite qu'il avait pensé marier, là, elle se marie, elle, à Ivry-la-Bataille, avec un médecin anticlérical, tout à fait différent. Alors, ça précipite sa décision. En mai 1835, 31 ans, il décide de se faire prêtre. Le 15 juin suivant, ça se fait vite, il entre au séminaire à Paris. C'était pas ici les Moulineaux, à l'époque, c'était à Paris même. Le gouvernement a repris le bâtiment par la suite. Il a donc 31 ans. Ce changement de vie lui cause tout un dépaysement. Il l'écrit. Il dit « Mon changement m'a semblé un peu brusque et parfois j'ai jeté en arrière quelques regards et je me suis senti chancelant en pensant au chemin qui me restait à faire. » Pas facile. Les vocations tardives, il y en a beaucoup de nos jours. Je pense à tous ceux qui, au grand séminaire, sont entrés à cet âge-là, ou même plus tard, j'en ai vu dans les corridors. Le 10 octobre 1835, il entre en théologie à Saint-Sulpice et au séminaire, selon son expression, il se tient dans le silence et l'oubli. Il reçoit le sacerdoce des mains de Monseigneur de Quélen le 22 décembre 1838 à 35 ans. Déjà, il a songé aux missions lointaines. On parlait beaucoup, c'était le début, on commençait à parler de plus en plus des missions lointaines. Évidemment qu'on en avait parlé avec les missions au Canada, avec les relations des Jésuites, dont je vous ai parlé en vous parlant du père Paul Ragnaud il y a quelques jours, le 3 septembre. Alors, il désire même entrer chez les lazaristes, hein, qui ont été fondés par Saint-Vincent de Paul. Je suis allé loger chez eux, il y a quelques mois, à Paris. Oh, c'est immense, mais il n'y a presque plus de lazaristes. Mais son directeur le lui a déconseillé. Aussi, il décide de revenir exercer son ministère en Normandie. Lors de son dernier examen de théologie, le supérieur du séminaire lui déclare « Vous n'êtes pas bien fort, mais vous avez un bon jugement. Alors soyez docile, puis vous réussirez. » Alors en janvier 1839, l'évêque d'Évreux, ça vous dit quelque chose, l'évêque d'Évreux, on en a beaucoup parlé il n'y a pas longtemps, hein, avec Mgr Gaillot. Eh bien, le nomme curé de Pinterville, à 2 kilomètres de Louviers, et l'abbé Laval y prend ses fonctions. Très rapidement, le 2 février suivant, et Pinterville, c'est un village de 500 habitants composé pour une moitié de paysans et pour l'autre moitié d'ouvriers qui travaillent dans des manufactures de Louviers. Une douzaine seulement de paroissiens, imaginez, qui assistent à la messe le dimanche. Une douzaine, c'est tout. Imaginez la quête, ça ne doit pas être gros. Il ne doit pas manger plus qu'un repas avec ce qu'il recevait. Alors, comme il a vraiment trop de loisirs, parce qu'il n'y a pas de fidèles, finalement, il profite de tout ça pour s'adonner à de longues heures d'adoration à l'église. De longues heures d'adoration à l'église. Il est prosterné derrière le maître-autel. Il vit aussi très mortifié, mal vêtu. Il mange peu, évidemment, pas d'argent. Il porte le cilice. Et les instruments de pénitence. On faisait beaucoup ça jusqu'à tout récemment. Il dort sur une paillasse, de la paille, oui. Puis, sur une simple peau de mouton. Il catéchise autant qu'il peut les enfants, y compris les arriérés mentaux. Et il fera faire, pour la première fois, la première communion à 21 enfants, le 17 novembre 1839. La même année où il est arrivé, donc quelques mois plus tard. 21 enfants, déjà. Et ce même mois, l'instituteur quitte le pays, alors il va le remplacer au presbytère. Et tous les jours, écrit-il, en février de l'année suivante, depuis 2 heures jusqu'à 4 heures, je montre l'ABCD à épeler à une douzaine d'enfants, puis je termine par la récitation du catéchisme. Il instruit même un infirme semi-idiot de 28 ans. Un peu comme Jean Vanier, quoi. Et, avec une immense patience, il lui apprend à lire. Oh, c'est pas facile d'apprendre à lire à quelqu'un comme ça, hein? Ça me rappelle mon fils. On lui apprenait à lire et à écrire. À 19, 20, 21 ans. Il le prépare au sacrement. Il le reçoit même à sa table, au moins le dimanche. Et dans sa paroisse, il aide les faux ménages, hein, en les conduisant au mariage. Il visite assidûment les malades. Il aide les pauvres. En leur portant des vivres et des vêtements. Au grand désespoir de sa gouvernante, il donne tout ce qu'il a. Si bien que les mendiants, évidemment, prennent à présent le chemin de la cure de Pinterville, et Rose, la servante, doit un jour refaire la soupe jusqu'à 13 fois. Incroyable. Ses confrères voisins trouvent que l'abbé Laval exagère du coup. Celui-ci connaît la solitude, et aussi en mars 1840, il invite l'abbé Letard, vous savez, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, à venir passer une semaine chez lui après Pâques. Il dit, on a besoin de consolation dans le ministère. On a besoin de s'encourager et de se remonter les uns les autres afin de ne pas se décourager. Et c'est là où le diable cherche à arriver. Alors aidons-nous l'un l'autre. Quand le bienheureux Jacques Laval, particulier près de paroisse dans un petit village, a décidé comme ça d'inviter ce prêtre qui l'avait marqué et qui l'avait un peu entraîné vers le sacerdoce. Il écrit dans la même lettre des compliments à son confrère sur la bonne marche de sa paroisse. Puis là, bien humblement, il révèle quelque chose d'extraordinaire, c'est le secret de son propre apostolat. Il dit, voilà comment on renouvelle une paroisse. Écoutez bien ça. Avec le temps et de la patience, et surtout en priant notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère, et en faisant prier les petits-enfants, dont les prières sont si agréables au bon maître. Il est surtout persuadé de l'efficacité du travail apostolique. Il note déjà, en mars 1838, donc un an après son arrivée. Non, ça c'est un an avant son sacerdoce. On ne travaille pas en vain au service du bon Dieu. Il récompense si bien le peu que nous pouvons faire pour lui, nous qui sommes ses serviteurs inutiles. Alors, ce bon curé Jacques Laval, curé de Pinterville, a conservé son premier attrait pour les missions dont je vous ai parlé, puis il s'enthousiasme au récit de la vie de Saint-Pierre Clavert, qui est fêté, si je me souviens bien, le 9 ou le 7 septembre, je suis pas sûr, ça a changé de date. Quel homme, Pierre Clavert. Or, en août 1840, passent le voir deux séminaristes de Saint-Sulpice, et au cours de la conversation, il est question d'une œuvre des Noirs. Œuvre des Noirs, c'est-à-dire des missions auprès des Noirs qui vivent ici et là dans le monde par grappe dans des conditions terribles. Et cette œuvre des Noirs a été entreprise par des séminaristes de Paris. Immédiatement, l'abbé Laval se sent tiré vers cette nouvelle congrégation en formation qui va devenir les Spiritains. Vu surtout, dira-t-il plus tard, qu'il ne fallait pas de grand talent pour faire du bien parmi ses pauvres. Il est humble. Il ne prend cependant aucune décision. Ce n'est que lorsque l'abbé Levavasseur, qui va partir à l'île Maurice de l'autre côté de la terre, avec le vicaire apostolique Mgr Collier, c'est un bénédictin anglais, ça, Mgr Collier, un évêque, et qui cherche un compagnon, ben, un des deux séminaristes se souvient que le curé de Pinterville, Jacques Laval, avait marqué son intérêt pour un ministère auprès des Noirs. Alors, l'abbé Jacques Laval, le curé Jacques Laval, vient alors à Paris vers la mi-novembre. Il fait une retraite. Il est mis au courant du projet ainsi que de la règle à suivre dans la congrégation qu'on appelait à l'époque Congrégation du Saint-Cœur de Marie, qui va devenir les Spiritains. Alors, gagné à cette cause, le bienheureux Jacques Laval se rend à Évreux informer son évêque de son intention. Non, l'évêque ne le reçoit pas d'abord très très bien parce qu'il l'aime beaucoup. Mais finalement, il accepte son départ. Le 6 février 1841, et là, le 10, quatre jours plus tard, le bon curé fait ses adieux. Il est pressé. Il fait ses adieux à ses paroissiens. Puis il rejoint à Paris Mgr Collier. Mais le départ est retardé si bien que le futur missionnaire passe le carême à la paroisse Saint-Ambroise, où j'ai vu, dit-il, comme chez nous, une très grande misère spirituelle, les paroisses vides. Il écrit ça en 1841, le 29 avril. Il expliquera quelques mois plus tard, en juin, c'est des prêtres que tout dépend. Et les prêtres dépendent des séminaristes, des séminaires. Le 14 mai, il va à Londres, d'où part un bateau qui s'appelle le Tanjora, qui se dirige à Bombay, en Inde, mais il va faire escale à l'île Maurice. C'est le 4 juin qu'on s'embarque. En attendant, qu'est-ce qu'il fait du 14 mai au 4 juin, ce Jacques Laval? Il loge dans un taudis, une mansarde, dans le haut d'une maison, sous la tuile, comme il dit, et se nourrit chichement. Il ne cherche même pas à visiter la capitale anglaise, tellement il est détaché du monde. Moi, me semble, je serais allé visiter le British Museum, etc. Non, pas lui. Je ne connais, écrit-il, d'autres rues, sinon celles qui conduisent à une toute pauvre petite chapelle desservie par un prêtre allemand. Il y célèbre la messe et passe des heures, matin et soir, à prier, implorant le Saint-Esprit. « Afin, dit-il, que moi aussi, tout pauvre et chétif que je suis, j'aille par-delà les mers prêcher mon Jésus à ces pauvres chers noirs. » La traversée va durer du 4 juin au 14 septembre, c'est-à-dire, vous calculez, 3 mois et 10 jours. Ça va être rude, car l'abbé Jacques Laval, tout comme son évêque, Mgr Collier, vont éprouver péniblement le mal de mer. Or, qu'est-ce que c'est que l'île Maurice? Elle a été découverte par les Portugais qui l'avaient nommée l'île du Cygne. Elle a été nommée ensuite Mauritius par les Hollandais qui l'avaient ensuite occupée. Puis, Île-de-France par les Français qui l'ont colonisé de 1715, au moment où le Canada était entièrement français ici, à 1810. Presque un siècle, les Français l'ont occupé. Et la langue française est demeurée là-bas, à l'île Maurice. Elle était conquise par les armes, par les Anglais, encore les Anglais, qui, de nouveau, donnent à l'île Maurice le nom de Mauritius ou île Maurice. À l'arrivée du père Jacques Laval, l'île Maurice compte environ seulement 140 000 habitants, dont 10 000 descendants des anciens colons français et 2 000 britanniques. C'est donc une île un peu bilingue, hein? Ça ressemble au Canada, français-anglais. Le reste de la population est composé de toutes sortes de Noirs et de Métis venus d'Afrique, de Madagascar, de l'Inde, de la Malaisie, même de la Chine. On y parle à la fois, donc, le français et le créole à cette époque surtout. La majorité des gens ont reçu le baptême catholique et le gouvernement anglais juge qu'il faut respecter le catholicisme, d'accord, les gens de l'île, mais aussi que pour mieux les angliciser, écoutez bien ça, il serait bon de les protestantiser, hein? Ça ressemble à notre histoire un peu. Alors d'où l'activité des méthodistes. Quant aux délégués apostoliques auxquels succède Mgr Collier, qui est bien dicté anglais, comme je vous dis, ces délégués apostoliques n'ont pas favorisé la vitalité spirituelle de l'île. Pas plus que les pauvres et malheureux prêtres qui viennent d'un peu partout et qui sont bien peu édifiants, ces prêtres, parfois. Le père Laval, qui est loin d'être médisant, c'est un saint homme, écrit dans une lettre en 1842, c'est terrible ce qu'il écrit. Ce sont des prêtres qui sont venus là pour gagner de l'argent et pour s'amuser. C'est incroyable tout le scandale qu'ils ont donné en cette pauvre île. Et Monseigneur m'a dit plusieurs fois qu'il s'étonnait qu'il puisse rester un peu de foi dans son vicariat. Et le bienheureux Jacques Laval ajoute, quant aux Noirs, il y en a environ 80 000 et de toutes sortes de nations. Ceux qui sont nés dans la colonie sont généralement baptisés, mais ils n'ont ces pauvres gens que le baptême. Les gens du dehors ne sont pas baptisés, excepté quelques Indiens qui viennent de Pondichéry. Hein? C'est chrétien, là, Pondichéry, en Inde. Tous ces gens, ainsi que les créoles, sont abandonnés, dit Jacques Laval, à toutes sortes de vices, le vol, l'impureté, l'ivrognerie et les autres désordres. Et le plus grand obstacle à la conversion de la population noire, ce sont les Blancs, au service desquels sont les pauvres Noirs. Tous ces Blancs ne s'occupent que de l'argent, et pour eux, la religion n'est rien du tout. Ça ressemble à ce qui commence à se passer ici. Hein. De sorte qu'ils détournent ces pauvres gens et se moquent d'eux au lieu de les encourager. C'est là la persécution de l'île Maurice. Et le père Laval constate aussi, les prêtres jusqu'ici ne se sont pas plus mêlés de ces pauvres abandonnés que si ce fussent des animaux. Il est dur, hein? Quant aux créoles, ils disent qu'ils sont corrompus et affectent comme les Blancs un certain mépris pour la religion. Ils veulent singer les Blancs. On voit ce qui nous attend si nous abandonnons notre foi ici à Montréal et dans les environs et au Québec. Oh là là! Le père Laval n'est pas sujet britannique et son cas pose problème. Mais Mgr Collier plaide sa cause auprès du gouverneur Sir Lionel Smith. Le père Laval, dit-il, il est vrai originaire de France, mais il est libre de toute partialité envers son pays, son caractère et sa conduite sont telles qu'il ferait honneur à n'importe quel prêtre de n'importe quel pays. Et mes efforts pour trouver en Angleterre un prêtre catholique disposé à se dévouer exclusivement aux pauvres et aux prisonniers sont restés vains et je n'ai pas espoir d'en trouver un autre pour cette tâche particulière et importante. Personne d'autre en qui je puisse placer ma confiance comme je le fais en ce gentleman Jacques Laval. Le secrétaire colonial finit par accepter qu'on engage Laval. Mais celui-ci devra partir à la première demande du pouvoir civil. Il est donc désormais toléré. Il sait, du moins, se faire oublier. « Je vis retiré dans un petit pavillon, écrit Jacques Laval, où je reçois mes pauvres noirs. Je mange seul et je n'ai presque aucun entretien avec les autres prêtres. Je ne suis ni bien ni mal avec personne. Je ne consulte que Monseigneur. » Aujourd'hui, il est question d'un prêtre qui était un médecin et qui devient un des grands saints de notre temps. Un homme d'une générosité incroyable. Un homme entier qui est parti de son cheval blanc, ça pourrait dire, de ses beaux costumes, de son aisance, de la danse, de la fréquentation des femmes, du manque d'assistance à la messe, d'une vie un peu relâchée, quoi. Tout en étant un bon médecin, quand même. Et qui devient prêtre. Et qui, là, devient un homme donné. Donné. Il a 38 ans. Quand il parle de ses méthodes d'apostolat à l'île Maurice, puisqu'il est le saint de l'île Maurice. L'île Maurice, n'est-ce pas, c'est dans l'océan Indien, de l'autre côté de la Terre. Ce sont toujours les mêmes méthodes d'apostolat qu'il avait en France, en Normandie. Il dit, je vis à Maurice comme dans ma petite paroisse de Painterville. Tout mon temps libre, je le passe au pied du Saint-Sacrement et c'est là que je vais me délasser. C'est extraordinaire. Je le répète, c'est trop extraordinaire. Tout mon temps libre, je le passe au pied du Saint-Sacrement et c'est là que je vais me délasser. Mais bientôt, des gens de couleur viennent le rencontrer. En juillet 1842, il écrit, « Je fais ici la fonction de catéchiste depuis 9 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. À tout instant de la journée, je ne suis occupé que de les instruire. Notre divin maître, jusqu'ici, m'a accordé la patience. » Prends beaucoup de patience. « La science n'est pas nécessaire auprès d'eux. Tous les soirs, à 6h30, nous faisons la prière. J'en réunis 150 à 200 et ça dure jusqu'à 10 heures. » Je dis le chapelet, puis la récitation des prières en commun, l'exposition des mystères, l'explication des commandements de Dieu, comme j'ai fait le 4 septembre, les sacrements, puis je les interroge. J'ai baptisé une soixantaine de pauvres malgaches, hein, les malgaches viennent de Madagascar, et des Mozambiques. J'ai eu le bonheur de faire la première communion à une quarantaine d'entre eux. À mesure que je les baptise, je les marie à l'Église. Alors, ceux qui donnent le plus de satisfaction au Père Laval, ce sont les malgaches. Ils les aiment beaucoup. À leur arrivée à l'île Maurice en 1841, 3 ans plus tard, 1844, le Père Laval peut déjà signaler au fameux père François Liberman. Vous savez, connaissez le père Liberman, ce juif converti qui a, en somme, fondé les spiritains, si on veut. J'en ai déjà parlé, c'est l'émission numéro 587. J'en ai parlé le 2 février 98. Alors, il écrit au père Liberman, son supérieur, en 3 ans, 250 personnes ont été instruites et baptisées. Il y a eu 350 mariages, tous les 3 jours, pour ainsi dire, tant créoles que malgaches. Il y a à peu près 320 premières communions, peu de jeunes, presque tous des vieux. Presque tous ont persévéré, dit-il, c'est important ça. Puis il précise, je suis très difficile pour donner le baptême et le mariage, et surtout pour les premières communions, non pas pour l'instruction, mais pour la conduite. Il faut prendre bien des précautions pour tâcher d'assurer la persévérance, Il ajoute, l'œuvre du bon Dieu va toujours bien lentement. Cependant, nous gagnons de jour en jour quelque chose. Alors, il y a un nouveau rapport, un an plus tard, en 1845, il dit, en ce moment-ci, à l'île Maurice, là où il n'y avait pas une vingtaine de Noirs qui pratiquaient notre sainte religion, il y a environ 3 000 qui pratiquent. Sur ces 3 000, 900 mariés à l'Église. 800 s'approchent aux grandes fêtes de la Sainte Communion. Voilà le résultat de 4 années. C'est bien peu de choses. Cependant, ce petit noyau, dit le Jacques Laval, a jeté une grande fermentation dans la masse. Il y a véritablement un grand élan vers la religion. Et tous les jours, il m'arrive quelques bons Noirs. À la fin de 1847, l'île compte 7 000 convertis. Ça a plus que doublé en 2 ans. Et chaque dimanche, l'église de Port-Louis, qui peut contenir 3 000 personnes, grande église, est empli pour les deux messes réservées aux Noirs. L'année suivante, Laval et ses confrères baptisent plus de 600 adultes et à la fin de 47, lui et ses deux collègues passent de 4 à 8 heures par jour au confessionnal. Imaginez qu'à Noël, ils y sont au confessionnal de 5 heures du matin à 9h30 du soir. L'île Maurice est devenue, écrit le père Thévaud au père Liberman, une terre de bénédiction. On peut pas dire que ça lui a pris bien du temps, 6 ans. Incroyable. Le 4 juin 1847, Laval écrit à son supérieur « Quelle belle moisson à récolter. Moi qui ne sais rien, j'ai pu réunir autour de moi de si nombreux enfants. Que ne ferait pas un missionnaire instruit et plein de capacité? » Ce furent d'abord des personnes âgées, le vieux monde, comme on dit, qui ont suivi le Père Laval, une vingtaine de jeunes seulement, sur 300 personnes. Mais par les parents, c'est ça qu'il procède comme ça, par les parents, le missionnaire va attirer les enfants. Par les Noirs, les Créoles, et finalement, il va attirer les Blancs. Dans sa pastorale, il donne une importance primordiale à la confession, sacrement de réconciliation. Il confesse même les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore baptisés. En même temps, il met en garde contre les danses licencieuses, notamment le sega. Je me demande qu'est-ce que c'est que cette danse. À tel point qu'une de ces danses africaines le met en cause. Voici les paroles. Et, parce que les gens sont pas contents. Ils se moquent de lui, un peu comme pour les gens à Ars avec le curé d'Ars. Hein. Voici les paroles d'une chanson moqueuse. « Je m'accuse, Père Laval, des 7 péchés capitaux. » Il arrive à ses pénitents de s'accuser même d'avoir dansé le Père Laval. Alors, pour Noirs et Créoles, il compose un grand catéchisme d'une admirable pédagogie. Il se met parfaitement puis dignement, avec des expressions populaires, à la portée de ceux qui l'évangélisent. Et sans jamais pour autant minimiser les vérités de la foi, les enseignements de la morale aussi. Il compose aussi un petit catéchisme en créole. Il l'a appris avec facilité, d'ailleurs, le créole. Il alimente la piété par les méditations du chapelet et par celle du chemin de la croix. Et pour sa part, il continue à prier puis à jeûner, puis à porter des instruments de pénitence plus douloureux à ses billes qu'en Normandie, sous un climat où il fait beaucoup plus frais. Quant aux Noirs, ils l'ont adopté. Ils disent, c'est à nous, celui-là. Il est bien meilleur que tous les autres, meilleur même que l'évêque. C'est ce que les Noirs disent. Très sympathiquement, tu es pas méchant pour l'évêque quand même. Les gens qu'il a amenés à la foi deviennent apôtres à leur tour et bientôt le missionnaire aura pour l'aider des catéchistes et des conseilleuses même, comme il les appelle. Ces femmes-là sont des chrétiennes dévouées qui visitent puis qui instruisent les malades, les préparent à la réception des sacrements. Et puis lui, il les forme à une solide piété. Les catéchistes répètent aux autres Noirs les prières, les instructions. Ils instruisent d'abord les gens dans leur maison, puis dans des petites chapelles. Écoutez bien ça, d'abord simple, paillote, pouvant abriter une centaine de personnes. Puis, c'est incroyable, en de vraies chapelles, bâties en dur, comme on dit, de 200, 600 et même 1000 places. Elles se multiplient dans l'île. Et pour les construire, il y a des générosités qui manquent pas. Ainsi, le Père Laval ne limite-t-il plus son apostolat à Port-Louis, mais il l'étend à la campagne. C'est incroyable. On l'a nommé depuis aumônier des prisonniers. Et deux fois par jour, il se rend à la prison. Une demi-heure le matin pour la prière. Et une courte exhortation. Une demi-heure encore le soir. Le dimanche, il y passe 4 heures. Il catéchise et confesse. Et de temps à autre, il accompagne les condamnés à mort, qui sont exécutés, pendus ou la tête tranchée. Les Blancs se moquent du Père Laval, le détestent, ils l'appellent la grosse bête noire. Car à présent quoi, les négresses, comme ils les appellent, refusent d'être leurs concubines. Mais peu à peu, ils se prennent à admirer le Père Laval à cause de son dévouement, de son abnégation, et devant les résultats obtenus. Il y a à présent les bonnes de couleur qui bercent les enfants blancs au chant de beaux cantiques. Et les servantes conseillent aux dames de la société de s'adresser au Père Laval. Alors les Noirs convertissent les Blancs. En juin 1845, lorsqu'un prêtre belge, l'abbé Mazui, arrive à Maurice, les Blancs voient en lui leur prêtre, comme les Noirs ont découvert le leur dans le Père Laval. Mais le nouveau gouverneur anglais de l'île Maurice n'aime pas ça. Il veut de plus en plus protestantiser l'île afin de mieux l'angliciser. Il refuse la venue de prêtres qui ne sont ni anglais ni irlandais. De son côté, le père Levavasseur, son supérieur, désire que le père Laval, premier prêtre de la Société du Saint-Cœur de Marie, là, qui vont devenir les Spiritains, mais qui n'y a fait aucun noviciat, mais qu'il vive en communauté selon les règles de la congrégation, parce qu'il craint d'ailleurs que le père Laval tombe malade, qu'il se dépense trop. Et puis aussi, il a peur qu'il s'ennuie, hein, seul comme ça. Il veut le faire venir à Bourbon, sur l'île Bourbon. Mais Mgr Collier déclare que personne ne pourrait entretenir sur l'île Maurice le bien qu'il y a fait. Finalement, l'évêque n'hésite pas à appeler quelques prêtres supplémentaires. Ainsi, le père Laval ne sera plus seul. Alors, le bienheureux Jacques Laval est accablé de besogne. Il se désole de ne pouvoir prier autant qu'auparavant. Il écrit « Je suis bien sec et bien aride ». C'est ce qu'il écrit au père Liberman. Et l'on ne gagne pas en ferveur dans ces pays de mission où l'on est obligé de se donner tout entier aux autres sans avoir un tout petit moment pour penser à soi-même. Mais son supérieur le rassure et l'encourage. Au début de 1851, il tombe malade. Il a 47 ans. Il s'en remet, mais trop épuisé, ne peut plus prêcher dans les grandes églises. Et en revanche, ce qui pourrait dire le comble de joie, c'est de voir ceux qui se préparent au baptême organiser une caisse de charité pour les malades et les indigents. Chaque mois, les responsables se réunissent autour du Père Laval pour répartir les dons. Le Père Levavasseur, alors provincial, ne cache pas son admiration pour le Père Laval et l'œuvre qu'il accomplit. Il dit, écoutez bien ça, on approche de lui, il écrit ça au Père Liberman, hein? On approche de lui comme de quelqu'un de sacré. Un prêtre, un vrai prêtre, un saint prêtre. C'est grand un prêtre. C'est immense un saint prêtre. On approche de lui comme de quelqu'un de sacré. Avec un respect et une religion dont on ne peut se défendre. Ce qui domine chez lui est l'esprit de pénitent. Il est évident que Dieu le soutient surnaturellement. Le Levavasseur veut pourtant que le missionnaire Laval organise des cérémonies à sensation, par exemple pour les premières communions. Le père Laval laisse faire. Mais l'élan donné par la solennité, il le sait, ça va retomber aussitôt. Puis les premiers communiants ne persévèrent pas. C'est comme ici, on fait des premières communions avec des belles robes, puis le lendemain, il n'y a personne à l'église le dimanche. Le provincial, de ce point de vue, juge mal son confrère. Il dit « Le père Laval est un saint homme qui s'entend merveilleusement faire des saints, mais pour l'administration, l'action missionnaire hors de la chair et du confessionnal, je lui adjoins le père Collin. Le père Laval, bien entendu, sera supérieur, mais le père Collin agira. » Alors ce dernier ne résiste pas à la tâche et il est remplacé par un père Lambert qui s'entend parfaitement avec son supérieur Laval. Puis par le père Thévaux qui avoue, en parlant du père Laval, c'est un saint partout, un homme rempli de grâce qui attire tout à lui. Mgr Collier et le père Levavasseur sont loin de s'entendre. On reproche aussi aux nouveaux chrétiens, ceux qui se préparent au christianisme à la foi catholique, de n'avoir pas totalement abandonné leurs défauts. Un journal protestant accuse les prêtres de fanatisme qui font de leurs fidèles des cagots. Cependant, un prêtre irlandais, Joseph O'Dwyer, qui témoigne au préfet de la propagande à Rome, « Je n'ai jamais vu de changement si complet de la conduite parmi les Noirs. L'ivrognerie a disparu, on n'entend plus de blasphème. Au lieu de chansons obscènes, ces gens chantent les louanges de Dieu et de la Sainte Vierge. Il n'y a plus jamais de bataille, de rixes, d'émeutes ou de scènes de libertinage. Les ménages scandaleux n'existent que parmi ceux qui ne sont pas encore entrés dans la religion. Ils observent avec rigueur les lois de l'Église. Après Dieu, le mérite de cette grande œuvre appartient au Père Laval. » Et alors surgit tout à coup, en 1854, sur l'île Maurice, le choléra. Et plus que jamais, le père Laval va être pris par des tâches immenses. Il organise le dévouement, il répartit à chacun la visite des quartiers pour qu'aucun moment ne soit perdu. Alors lui-même, il se rend à l'hôpital civil qui regorge de malades, du choléra. Sans se préoccuper de la contagion, ça lui fait pas peur. L'après-midi, il va en toute hâte bénir les fosses au cimetière où l'on enterre les morts, qui sont nombreux. En juin, c'est la panique. On compte parfois jusqu'à 200 décès par jour. Et Laval confesse, baptise, il régularise les mariages. Pour les baptêmes, il se contente de demander la foi aux trois mystères. Le renoncement à tout ce qui déplaît à Dieu. Et l'engagement, si on ne meurt pas, à fréquenter le catéchisme. Il lui arrive de conférer 60 baptêmes durant une seule journée, et de marier 120 personnes. L'épidémie fait 6000 victimes, mais provoque aussi de nombreuses conversions. Ça réveille les endormis, ça réveille la ferveur des fidèles. Ceux qui, baptisés à la hâte, ont échappé à la mort, seront fidèles à se faire catéchiser. Et on se demande comment le père Laval a pu éviter d'être atteint par le choléra. Mais un témoin qui dit c'est un dur à cuire. Mais pour soutenir ces âmes bien disposées, prête à retomber, il faudrait des prêtres. Et le père Laval demande 4 nouveaux missionnaires. Les circonstances étant devenues favorables, le supérieur Schwindenhammer envoie 2 spiritains et en promet 2 autres qui ne viendront jamais. En revanche, un autre missionnaire doit être rapatrié pour sa santé. Vraiment, gémit le père Laval, la mission est dans une grande souffrance. Tout languit, tous des sièges, faute d'ouvriers. Le manque d'ouvriers, le manque de prêtres, le manque de missionnaires, c'est une horreur à travers le monde, et particulièrement chez nous. En 1855, la variole sévit à son tour pendant 3 mois. Puis revient le choléra encore. Alors, en 1856, le père Laval est épuisé. Il a au confessionnal une première attaque d'apoplexie, mais il s'en remet. Il va subir une nouvelle attaque en juin 57. Il se sent tout harassé et brisé. Il ne peut plus chanter la messe, ni voir les malades, mais il confesse toujours, il prêche encore. Le 16 mai 1858, à 55 ans, il tombe en chaire, frappé par un coup de sang. Il est alors pris de tremblements nerveux. Il peut à peine célébrer la messe. L'année suivante, au mois de janvier, le père Colin débarque à Port-Louis en visiteur officiel. Il y trouve Laval profondément usé, incapable de rien sinon de souffrir et de prier. Il juge aussi que la communauté doit être renforcée. Ils sont si peu nombreux, car la jeunesse lui semble dirigée par ceux de la punérie d'ouvriers. Elle est négligée, la jeunesse, elle est négligée à cause de la pénurie d'ouvriers. Et les protestants risquent de faire des ravages dans l'île. Il accepte la démission du père Laval et le remplace comme supérieur de Maurice, de l'île Maurice, par le père Thévaud. Et là, quelques années plus tard, Monseigneur Collier, le bénédictin anglais, demande un congé de maladie. Il ne viendra plus dans son diocèse. C'était le vieux compagnon qui est arrivé jadis avec lui, qui prononce le discours d'adieu, le père Laval. Le père Colin, cependant, continue à tourmenter l'ancien supérieur qui, à présent, s'est retiré à Sainte-Croix. Le visiteur reconnaît qu'il a été l'apôtre de l'île Maurice et qu'il y exerce encore une immense influence, mais il a laissé beaucoup à désirer comme supérieur à cause de son caractère trop bon, trop conciliant, trop faible vis-à-vis de ses collègues. Il lui reproche aussi d'avoir été le plus humble serviteur de Mgr Collier. Cédant à toutes ses exigences, même aux dépens des règles des spiritains, les règles les plus importantes de sa congrégation, enfin il en vient aux questions pécuniaires, et selon la règle provisoire de 1840, là, écoutez bien ça, le surplus de l'argent donné pour la communauté devait aller aux bonnes œuvres, mais selon les constitutions du supérieur de 1856, le père Schwindenhammer, ce surplus, quoi, devait en totalité être remis à la disposition du supérieur général, mais depuis 1851, la communauté de l'île Maurice ne fournit que 17 000 piastres à la maison mère, tandis que 42 000 piastres ont été dépensés en aumônes, à l'entretien des catéchistes, à la construction de chapelles. Et on l'accuse, voilà bien une faute majeure de la part d'un homme absolument détaché de l'argent. L'argent ne l'intéressait pas, c'est les pauvres qui l'intéressaient. Humblement, le père Laval reconnaît les erreurs qu'on lui impute. Il écrit au père général, « Enfant prodigue, me voilà donc de retour à la maison paternelle pour réparer les fautes commises comme particulier, surtout comme supérieur, contre les règles. Je vais, comme ouvrier de la 11e heure, m'efforcer de réparer toutes les fautes de ma longue supériorité. » Et le pauvre homme en arrache. Il consacre son temps à la prière. Il lit la vie des saints, oui, il lit la vie des saints avant de mourir. Il fait office de portier. Il me tarde, dit-il, d'être arrivé à la fin du chemin. Et le 7 octobre 1860, il a 57 ans, on lui demande de parler à Sainte-Croix devant les membres de la confrérie du Rosaire, et dans le sermon qu'il a préparé, il se plaint que depuis quelques années, la piété, la réception des sacrements, les mœurs, dans la jeunesse surtout, ont sensiblement baissé, car on a trop abandonné la récitation du Rosaire. Alors, il ne peut plus célébrer la messe. Il a une attaque d'hémiplégie, n'est-ce pas, une paralysie de tous les côtés. Il doit regagner sa chambre. Le médecin ne lui cache pas, il n'espère pas le sauver. Alors il dit Deo gratias, Jacques Laval dit Deo gratias, il est tout joyeux, il va mourir. Et le nouvel évêque, Mgr Hankinson, vient le voir, ainsi que le clergé, puis le 9 septembre, il expire sans agonie. 210 ans auparavant, jour pour jour, expirait à Carthagène, en Colombie, un autre apôtre des Noirs, le Saint-Pierre Claver, dont je vous ai parlé tout à l'heure brièvement. 40 000 personnes suivent sa dépouille, 40 000 personnes aux funérailles, à la cathédrale. Il y a un jésuite qui prophétise pendant l'oraison funèbre, cette cérémonie ressemble à un triomphe. On dirait qu'en pleurant le bon père Laval, vous célébrez la fête du Saint-Père Laval. Et Jean-Paul II, quand il l'a déclaré bienheureux en 1979, a dit ceci, « Nous trouvons le secret de son zèle missionnaire dans sa sainteté. » Écoutez bien ça, « Dans le don de toute sa personne à Jésus-Christ, c'est le secret de la vie et du bonheur. Hein? Le don de toute sa personne à Jésus-Christ, inséparable de sa tendresse pour les hommes, surtout pour les plus humbles qu'il veut faire accéder au salut du Christ. » Voilà un modèle pour les évangélisateurs d'aujourd'hui. Et le pape continue en disant qu'il inspire les missionnaires et tous les prêtres, que le bienheureux Jacques Laval soit aussi la fierté, l'idéal et le protecteur de la communauté chrétienne de l'île Maurice, si dynamique aujourd'hui, et de tous les Mauriciens. C'était dit il y a près de 20 ans. Vous voulez lire une belle vie du père Laval? Lisez le père Jacques Laval, c'est paru il y a 20 ans. Par Joseph Michel, c'est un assez gros bouquin. Ça se lit comme un roman. C'est passionnant. C'est paru chez Beauchesne. Il y a aussi une vie du père Laval par Paul Bernier. C'est une petite plaquette. Il y a enfin aussi, de Jacques Laval, des textes choisis par Joseph Lécuyer, des extraits de sa correspondance, parus encore chez Beauchesne. Il y a beaucoup de belles choses à lire sur le père Laval, mais surtout à méditer. Cher père Laval, faites que nos prêtres soient de saints prêtres et que nous les aidions à être de saints prêtres. C'est simple. Oh, je ne vous demande pas grand-chose, mon Dieu. Tout simplement ça. Oui, faites que nos prêtres soient de saints prêtres et que nous les aidions à être de saints prêtres. Amen.